Ça doit être la fièvre des séries. Je me sens surexcité. Ah non, ouais, je suis là, je me dis, OK. Là, je sais pas si ça vous fait ça, chers auditeurs et auditrices, mais moi, je me dis, OK, là, je suis rendu là dans ma journée. Je me suis levé à 3h30. Là, je suis rendu à animer l'émission dans genre.
Ton deuxième souffle.
Ouais. Après ça, je vais être rendu à ma sieste, mon gym. Puis dès que je sors du gym, je cueille mon Edou à sa pratique de football qui va être finie. C'est le match. Fait que tu sais, il reste pas beaucoup d'étapes avant qu'on arrive au match, là.
Non, mais je vois que t'as bien occupé ton temps pour pas attendre et taper du pied, là.
Ouais, puis là, on va être au gym. Pour aujourd'hui, c'est à muscu. Fait que là, Nick, l'entraîneur, à un moment donné, va venir me jaser pendant 5 minutes d'hockey. Fait que tu sais, ça va être un petit gym. Faut pas dire léger, parce que Nick nous fait toujours travailler très fort, mais... Ouais, t'as un gym où on va jaser de hockey.
Mais tout le monde est sur cette énergie-là aujourd'hui. J'ai l'impression, même ceux qui sont pas tant fans du hockey. Puis je parle parce que je m'inclus là-dedans. Fait qu'entre personnes qui trippent pas sur le hockey habituellement, on est comme, on va peut-être regarder. On commence à embarquer dans votre frénésie. Là.
Ah, vraiment, vraiment. 418-971-101, vous la vivez comment, votre fièvre des séries? Là? Parce que si le Canadien gagne à soir, c'est 3-1 dans la série. C'était une victoire de la finale de conférence. Le Canadien n'a pas passé proche de ça depuis des années, depuis le printemps à Lac.
Est-ce que tu t'es corrigé, là? Parce que la semaine passée, tu étais très négatif.
Ouais. C'est un traître. Avec Alex Laramée.
Oui.
Parce qu'eux étaient comme les sabres vont anéantir le Canadien.
Tu sais, il faut pas les jinxer en disant, tu sais, c'est sûr qu'ils vont gagner des affaires de même, comme j'ai entendu un matin dans un autre média, dans mes oreilles. J'étais fâchée. Je faisais un test de son. Mon test de son, c'était je sais pas qui dans mes oreilles a dit c'est sûr que les Canadiens vont gagner à soir, mais je vous prierai de cesser, monsieur. Il faut pas les jinxer. Mais je te trouvais très négatif la semaine passée. Très, très négatif.
Ouais, il y a quelqu'un qui me dit 2021, mais avec des étoiles, en effet. Le Canadien a été en finale de la Coupe Stanley en 2021, mais c'était l'année COVID.
C'était bizarre. Il faisait
chaud dehors. Il y avait personne dans les estrades. Là.
Il n'y avait pas eu quelque chose en 2014 aussi?
Oui, le printemps à Lac.
Moi, je me rappelle qu'on était rendu en camping, qu'il fallait encore écouter sa radio canadienne.
Exactement. Yaroslav Halak qui avait été exceptionnel dans les séries d'après-saison. Canadien qui avait battu les Pingouins et les Capitals en première ronde. Pingouins par la suite, qui étaient deux des meilleures équipes de la Ligue nationale. Et se sont inclinés contre les Flyers. Fait que vous la vivez comment, votre frénésie? Vous allez écouter le match où à soir? Moi, c'est tranquille à la maison. Allez-vous au centre Vidéotron jeudi pour le cinquième match? Il y a des jours au-dessus de 10 000 billets.
Alors, ça va être populaire, cette affaire-là.
C'est complètement fou. Bon, ça me fait toujours un pincement au cœur parce que je me dis c'est dans l'aréna qu'on réservait pour nos Nordiques. Mais là, qu'est-ce que tu veux?
Ils sont pas là.
Mes gars sont rendus avec des gilets du Canadien. Ma blonde a un gilet du Canadien. Il y a des gilets du Canadien partout. Faut que je m'efface.
Moi, j'aime ça. C'est peut-être quétaine pour du monde. Parce que moi, les grands cils là, sur une voiture en avant, là, je suis vraiment la gang qui ne fais pas ça à ta voiture, ni à ta fierté. Mais le petit drapeau là, sur la voiture, là, avec une grande fierté qui arrive là, en série pour le Canadien, je trouve ça cute. Vous êtes beau à voir.
Ah non, il y a de quoi de spécial qui se passe à l'heure actuelle. On va en parler vers 12h50 avec Alex Laramée, là, justement, de ce match. J'ai un petit extrait de la conférence de presse de Martin Saint-Louis de ce matin. Et Pat McAfee, si vous ne le connaissez pas, c'est lui qui a le podcast sur le sport le plus populaire aux États-Unis. Lui, c'est un ancien batteur de dégagement pour les Colts d'Indianapolis. On s'entend, un batteur de dégagement là, au football, là, on n'entend jamais parler de ça. Okay? Mais lui, c'est vraiment développé dans les médias par la suite. Il est même devenu commentateur de la lutte. Il a même fait des combats de lutte à WrestleMania. Tu sais, il est devenu une méga star. Il commente maintenant le football collégial américain également. Puis je vais vous le faire entendre. C'est un 22 secondes de bonheur où il dit « Là, je capote. J'ai jamais voulu être Canadien. Mais là, quand je vois l'ambiance au Centre Bell, quand j'écoute ça avec ma fille, je me dis « Hey! » C'est donc bien malade ce qui se passe dans le sport là-bas. Ah. Donc, c'est le Canadien de Montréal fait parler de lui-même aux États-Unis. Ah, puis je peux pas croire que moi, Jeff Fortin, qui les a toujours détestés, je suis en train d'embarquer là-dedans. Ils sont en train de m'avoir, les écœurants.
Mais c'est tough quand même pour le monde de Québec, honnêtement. Parce que moi aussi, c'est une des raisons pour lesquelles... Moi, j'ai suivi beaucoup le hockey quand j'étais jeune. Puis quand les Nordiques sont partis en 1995, j'ai trouvé ça très plate, très dur. Puis j'ai jamais embarqué dans aimer les Canadiens.
Non,
jamais,
c'est ça, moi
jamais,
non plus. Hey, j'ai fait la marche pour sauver les Nordiques, imagine-toi.
Moi, je connais un homme dans l'âge à Jeff, mettons, qu'ils appellent les trous de cul. Puis là, j'ai dit, tu le sais que depuis que c'était les adversaires par excellence,
l'eau
des Nordiques.
A coulé sous les ponts.
Il y a eu énormément de jeunes qui sont passés, puis là, ils sont rendus très, très jeunes, et c'est plus les mêmes. Oui, oui, des trous de cul. Oui,
c'est ça. Il y en a qui ne changeront pas d'idée, mais... C'est ça, c'est notre seule équipe au Québec.
Eh oui, j'ai mon chum, là, Pierre-Philippe, qui vient de m'écrire. Trop de compliments sur le Canadien, ben, je te reconnais plus. Mais le problème, c'est que c'est lui qui m'a dit vendredi, « Embarque donc dans la vague, là, tout le monde est embarqué. » Puis là, j'y ai dit, « Ouais, il faudrait bien. »
Mais moi, j'aime ça du sport. C'est ça que j'aime du sport. Les histoires, le genre de petits rassemblements où deux, trois personnes ne boivent pas même bière parce que ça représentait une équipe ou une autre. Bon, ça a changé, vous me direz. Oui, effectivement. Mais le genre de petit coltaillage, le fun, là. Puis les gens qui sont de bonne humeur en se levant le matin parce que ce soir, il y a un match. Puis tout le monde vit dans une grande émotion. Le sport a honnêtement cette grande valeur-là dans notre société.
Puis vous vous rappelez, l'année passée, on était obligé de remettre un débat.
C'est vrai.
Politique à cause de ça. Puis là, je dis pas que c'est aussi important, mais moi, chaque jeudi soir, je suis live sur YouTube à 21h avec des chums, d'autres chums analystes politiques.
Mais là, jeudi,
jeudi, là, on disait. Puis là, il y a personne qui pouvait faire ça à un autre moment. Fait qu'on va le faire pareil, mais on se disait, on le sait, qu'on va avoir beaucoup moins d'achalandage. Mais c'est la vie.
Ah, plein de gens, là, par texto, continuez à m'écrire. Il y a plein de gens qui disent, tu fais bien, Jeff, embarque dans Frénésie. T'as jamais eu de Coupe Stanley avec les Nordiques, de toute façon. Ah, les bras meurtris te tendent la scène flanelle, Jeff. Oh, my God! Ah, ça fait mal. Ça fait mal en dedans, mais en même... mais c'est parce qu'en même temps, je vois tellement le monde triper. Puis moi, je suis un gars positif dans la vie. Fait que c'est écrit,
mais l'ironie de la chose, c'est quand le Canadien performe pas, ils sont pas bons, même ceux qui trippent dessus. Je vous le dis, moi, c'est mon show d'humour préféré à l'année. Premièrement, vous en parlez tous les mois, toutes les saisons. Il y a tout le temps quelque chose par rapport au hockey. Ça finit jamais. Tout le monde embarque dans l'eau quand ça va bien. Puis quand ça va mal, même les plus fiers de leur Canadien, « Ah, mauvaise année, alors il est pas bon, lui, il est pas bon. Lui, la superstar qui arrive de l'Europe. Ah non, finalement, il fait pas ses points, pas si bon que ça. »
On est émotif en
C'est bipolaire.
Mais t'sais, oui, vraiment bipolaire. Oh oui.
Moi, pendant longtemps, je voulais pas non plus prendre pour les Canadiens parce que j'avais un espoir que les Nordiques pourraient revenir.
Et là?
Et cette année... Ça y est, je passe à autre chose. Ah, ils ne reviendront pas.
Non, je sais.
Moi, depuis que j'ai vu le documentaire sur les expos, ça a réglé le cas.
Oui, c'est vrai. C'est un excellent point. J'ai écouté le documentaire sur les expos. Puis, tu sais, des fois, je souhaite quasiment plus que les expos viennent que les Nordiques parce que moi, les expos, pour moi, c'est des souvenirs d'enfance extraordinaires. On part à chaque dimanche après-midi que les expos jouent au stade, dans un petit Dodge Omni à mes parents. Oh. Puis, on s'en va au stade, on mange un petit hot dog dans ce temps-là, 1,50.
Le Sunday dans casquette.
Le Sunday dans casquette. Je collectionnais un petit casque. Oui. Je les accrochais sur des crochets dans ma chambre. Et puis, quand j'ai vu ce documentaire-là, puis à savoir à quel prix les concessions maintenant valent dans le sport, j'ai dit, oubliez ça. Québec est pas assez gros pour du hockey de la Ligue nationale, puis Montréal est plus assez grosse pour une équipe du baseball majeur. Donc, t'as raison. Un autre Jeff qui m'écrit, reste avec nous dans la team nordique, s'il vous plaît, on est de moins en moins. Je le sais, Jeff, gâche ta tête à la main, là, tire, regarde-moi.
Il se fait tirer de l'autre bord, là, rattrapez-le.
Ben, ça, c'est mes gars de l'autre bord qui me tirent.
Ben, c'est beaucoup ça qu'on entend, c'est que. C'est la nouvelle génération qui n'ont jamais connu les Nordiques.
Exactement.
Et qui trippent sur les Canadiens. Puis là, nos enfants aiment ça. Puis là, bon, qu'est-ce que tu veux?
Ils sont heureux. Pourquoi est-ce qu'on n'embarque pas là-dedans?
Merde.
C'est ça. Gars, vois-tu, Sébastien qui m'écrit, « Je suis Nordique, je suis rendu que je prends pour le Canadien, mais pas au point de mettre un chandail des Canadiens. » Vois-tu, je me situe là.
Il y a des réserves.
Non, mais c'est ce qu'à soir, tu sais, à soir, je vais écouter le match avec Edouard. Il va avoir son gilet d'Emidov sur le dos. L'hymne national va jouer. Il va se placer la main sur le cœur. Il va fredonner l'hymne national. Je veux dire, le flambeau va arriver. Il va me demander, bah, « C'est qui cet ancien joueur-là? Raconte-moi ses statistiques. »
Tu le mettras pas, le chandail, là.
Non, c'est ça, je peux pas mettre le chandail.
T'es pas rendu là, non.
C'est le mot à la mode en anglais, les boundaries, là. Ben là, c'est ça, c'est boundaries.
C'est là.
Mais tu sais, je vais avoir beaucoup de difficultés à pas faire quand le Canadien score une tape dans la main, tu sais, je veux dire,
Jeff,
il vit son bonheur.
Je te donne la permission, OK.
Ah, ouais, c'est ça, OK. Je sais pas.
Tu peux t'assumer. Ils reviendront pas les Nordiques. Je suis désolée pour les commentaires qui rentrent sur les Nordiques, mais je pense qu'il faut qu'on fasse notre deuil, là. Ça arrivera pas.
Ouais.
Pour tous ceux qui ont des genres de cérémonies, des superstitions et tout, on vous l'a dit, hein, c'est le temps, là. On n'arrête pas ça.
Non.
Parce que juste Lambert Drainville, la journée où il a fait une chronique avec nous, puis il avait pas mis son chandail, ça n'a pas fonctionné.
Le Canadien a perdu, puis quand il l'a mis après, ça fonctionne.
Mon chum est allé écouter la game ailleurs qu'à la maison l'autre soir, puis ils ont perdu. Fait que
là, il est à la maison.
Ouais, c'est ça.
C'est ça. Moi, je l'ai écouté à la maison. L'autre soir, je pourrais peut-être aller ailleurs. Non, c'est pas vrai, c'est vrai. C'est vrai, là. J'ai dit que pour ce soir, j'essayais. fort d'encourager le Canadien avec mon Edou. Bon, Pascal?
Il y a des gens qui disent « Continuez de même avec les Nordiques, puis je m'en vais écouter ailleurs. »
Oh, mais non.
Bon, OK, Pascal, mais... on va faire des manchettes avant le caucus. On va parler tantôt des séries avec Alex Laramée. On va avoir Pascal Paradis aussi à 13h30. Des gros dossiers en informatique à jaser avec lui. Mobilité Infra-Québec qui fait parler de d'eux parce que... Il n'y a pas grand projet présentement de concrétiser, puis il y a des bonnies à la performance chez les gens. Puis on va lui parler aussi d'une candidature que tu vas nous parler dans les manchettes dans Jean Talon, une adversaire politique.
Oui, je vais avec ce qui est en fait les grosses nouvelles de la journée. C'est l'extradition de Dave Picturmel en passant vers le Canada qui fait le plus jaser parce que ça a été annulé par un tribunal italien. C'est le chef présumé du groupe criminel Blood Family Mafia qui, en passant, est en train de se détruire de lui-même. Là. Il y a des genres de repousses un peu partout, puis même la construction d'un nouveau groupe criminel depuis son arrestation. Mais il demeure détenu en Italie. On était supposé de le ramener ici, mais ses avocats ont réussi à annuler son extradition vers le Canada. Donc, on va retourner devant les tribunaux. L'affaire, c'est que ça pourrait prendre des années, donc les procédures judiciaires en sol italien qui peuvent prendre plusieurs années selon son avocate. Est-ce que c'est sa stratégie? Peut-être, mais sachez qu'il a été appréhendé près de Rome le 27 mars 2025. On est encore là-dedans et assurément qu'on veut juger cet homme-là qui en a fait beaucoup de dommages, là, présumément, en fait, et qui était à la tête de ce regroupement hyper, hyper violent. Donc, Dave Turmel, qui est détenu à Regina Coeli, c'est la plus grande prison de Rome en ce moment. La rumeur circulait, Radio-Canada l'a confirmé tôt aujourd'hui, Julie White, qui sera la candidate libérale dans Jean Talon, la PDG de Manufacturier et Exportateur du Québec, va porter les couleurs du Parti libéral du Québec pour faire face au député actuel Pascal Paradis du Parti québécois. Celui qu'on aura en entrevue à la fin de l'émission. Donc, Jean Talon, qui a longtemps été reconnu comme un château fort libéral, il était passé à la CAQ en 2019 et 2022, puis au PQ avec M. Paradis en 2023. Julie White s'était d'ailleurs présentée pour le PLQ dans la circonscription en 2022. Elle a fini au quatrième rang. Annonce officielle qui sera faite la semaine prochaine. École Bedford, ça fait beaucoup couler d'encre dans les derniers mois, mais les brevets de 11 enseignants suspendus ont été révoqués. C'est la décision finale par le ministère de l'Éducation. Je vous rappelle que les brevets des 11 enseignants qui auraient fait régner un climat de peur, d'intimidation à cette école-là, c'est pour ça que ça avait fait la manchette. Décisions qui font l'objet de contestations. On n'a pas voulu commenter davantage l'information. Aujourd'hui, c'est la date limite pour remplir le recensement 2026 du gouvernement du Canada. Sachez que vous avez peut-être la version courte ou la version longue. Pour le savoir, ben, faut faire votre recensement. Vous devriez avoir le papier dans votre boîte postale.
Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Iaccarini vous les sert clair, net et précis dans le caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici le caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Le caucus avec Antonin Iaccarini de midi à midi 30 du lundi au jeudi sur les ondes de Boulevard 109. Vous pouvez l'écouter via les ondes hertziennes, mais aussi via blvd.fm, c'est notre web radio. L'application BLVD 102.1 également sur App Store et Google Play Store. Hey, Anto, c'est le fun, on parle d'orchestre avec toi aussi.
Ouais,
c'est la
pas,
vraie fièvre.
Mais pas dans le caucus, là.
Pas dans le caucus.
On prend un break.
On prend un break, on revient à la politique. Notre ami Gilles, et je parle de l'ex-ministre de la cybersécurité de la transformation numérique, c'est-à-dire Gilles Bélanger, en remet une couche aujourd'hui. Il a parlé avec Nicolas Lachance, excellent journaliste pour le Journal de Québec, Journal de Montréal, sur la colline parlementaire. Et là, tout n'est pas correct. T'es là, là, on donne nos données aux États-Unis.
Ouais.
On ne suit pas les recommandations du rapport Galant. On est dans le trou avec tous nos projets informatiques. Mais pourtant, crime, le lancement de DSN n'a quand même été pas si tant pire.
Pas si tant pire, mais quand même, hein, ça coûte cher. Ce contrat informatique-là, il y a eu des dépassements de coûts déjà. On a rajouté du budget. On apprenait la semaine passée les coûts d'exploitation qui allaient être assez élevés. Donc, M. Bélanger, il dit des choses qui ne sont pas fausses. Le problème, c'est que, ben, au niveau de la crédibilité, c'est sûr qu'une fois qu'ils sont sortis du Conseil des ministres, les gens déçus, tout à coup, là, ils ont beaucoup de récriminations.
Quand ils deviennent indépendants, là,
oh là là,
sont donc bien rendus bons.
Oui.
T'sais, dans le sens que
eux autres,
là,
ils
là,
savaient, mais ils se faisaient dire non.
C'est ça. T'sais, ils ont toujours su comment gérer ça.
Exactement.
Mais là, ils m'ont toujours bloqué les écœurs.
Tout le temps, hein? C'est comme le même pattern qui revient continuellement. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont voir en M. Bélanger un genre de lanceur d'alerte.
Oui.
Qui voulait tout régler. Mais les méchants voulaient pas qu'ils règlent tout. Puis ils l'ont tassé, tu sais.
Ben oui, bon. Puis là, ça, c'est autant François Legault que Christine Fréchette.
Ah oui, oui.
Puis là, ça avait été Bernard aussi.
Ah, tout le monde, tout le monde.
Puis ça avait été Simon-Jolin Barrette, lui aussi.
Aussi, probablement. Fait que ça, c'est bon, je caricature, mais c'est une des façons de le voir. Puis l'autre façon de le voir, ben, de dire que c'est juste quelqu'un qui est frustré de ne pas avoir été nommé ministre, la réalité se trouve à quelque part entre les deux.
En effet.
Parce que M. Bélanger dit des choses. Si vous voulez dire quelque chose puis être sûr que l'avenir vous donne raison, dites qu'un projet informatique va mal aller. OK? Parce que ça va mal, les projets informatiques au Québec. On n'est pas bon. On dépasse les budgets. On est dépendant de certaines solutions informatiques. On dépense trop en consultants. Il manque d'expertise dans les ministères. Mm-hmm. On sait tout ça.
Ben oui.
Puis sais-tu quoi? C'est très bien résumé dans le rapport Galant. Et où ce rapport-là?
Bien, ça, c'est un point qui m'agace. C'est que j'ai pas l'impression qu'à l'heure actuelle, il y a de projets informatiques qui suivent les recommandations. D'un autre côté, je veux me faire l'avocat du diable. Là, on parle de projets qui étaient déjà amorcés. Voilà. Donc, je me dis, celui-là, là, qu'on va starter là, t'sais, avec le prochain gouvernement, bien là, il va falloir qu'ils suivent les recommandations à la lettre. Du côté de santé numérique, je comprends là, qu'on est pris avec Epic puis des contrats qui vont nous coûter des centaines de millions en exploitation. Puis moi aussi, je trouve que ça n'a pas de sens. Mais en même temps, c'est la façon de faire. Puis là, je ne veux pas le dire à l'époque, parce qu'on est dans l'actuel, mais à l'époque de monter ce genre de projet-là, c'était la façon de faire.
Tu as tellement raison, Jeff. C'est qu'il va falloir accepter que les projets qui sont en cours présentement, ben c'est dans l'ancien régime. Tu as raison.
Oui.
Puis je parle pas de régime politique. Je parle de comment on va gérer les projets informatiques. Parce qu'un projet qui est mal démarré, puis là, ça remonte jusqu'au moment où dans un ministère ou dans une société d'État, il y a des gens qui vont définir c'est quoi leurs besoins en termes de transformation numérique. Dès cette étape-là, on le fait pas comme il faut. Okay? Mm-hmm. On n'a pas l'expertise pour dire c'est ça exactement mon besoin.
En effet.
Donc après ça, là, quand vient le temps de se tourner vers des appels d'offres, construire l'appel d'offres, après ça, accepter une firme qui va faire le projet, toute la gestion de projet, plus tu avances, ben, tes erreurs que tu as faites dès le départ, ben, elles ne se régleront pas en cours de route, ça coûte plus cher, là, finalement, on a des surprises, on est dépendant de certaines entreprises, bien sûr. Moi, entreprise américaine ou pas, moi, je veux la plus compétente, puis je veux pas qu'on se fasse avoir.
C'est ça.
Okay? Si on pouvait avoir des entreprises canadiennes, québécoises, qui ont toutes les compétences, puis qui le font, tant mieux, là!
Ben oui!
Mais moi, ça me fait pas capoter l'histoire que c'est des entreprises américaines. Donc, honnêtement, j'ai fait une demande de mise à jour du côté du Conseil du Trésor, parce que tu sais que le MCN, le ministère d'informatique, a été absorbé par le Conseil du Trésor lors du dernier remaniement, ce qui n'est pas une excellente nouvelle. C'était le cas avant. Okay? Donc, M. Kerr était délégué au Trésor dans le premier mandat de la CAQ. Mais ce n'est pas pour rien qu'on a fait ce ministère-là. Donc, j'espère que c'est une situation qui est temporaire. Puis j'ai demandé, on en est où avec le rapport Galant? Des gens de très bonne volonté m'ont répondu que ça suivait son cours et là, mais il n'y a rien qui a été annoncé. Puis, tu sais, on me dit, c'est des choses qui sont sérieuses, on ne veut pas faire des annonces, Bien, je comprends donc. Mais c'est parce que là, c'est quoi qui se passe? Ça presse, là.
Ben
parce
oui.
que là, ce qui va arriver, c'est que si on ne règle pas nos problèmes, bien, ça va ralentir la transformation numérique de l'État, puis on va prendre encore plus de retard. Tu sais, on le sait que l'État a un retard numérique, là.
C'est clair. T'sais, on est encore au fax dans les hôpitaux. Là.
Fax dans les hôpitaux, papier carbone dans le système de justice. Je veux dire, ça va pas du tout. Mais si en plus, les gens ont peur de se retrouver en commission d'enquête dans 3 ans, penses-tu que les sous-ministres puis les ministres vont avoir envie de se garrocher dans des nouveaux projets informatiques?
Non.
On va être encore c'est pas plus mieux, stressé là. Au niveau financier. Est-ce qu'on va échapper des choses parce qu'on va se dire hey, on veut pas dépenser X nombre de dollars de plus? Puis c'est il y a 10 ans qu'on aurait dû embarquer
oui,
encore.
Puis nous, comme citoyens puis comme observateurs, on est frileux aussi. On se dit on veut pas un autre saclic, on veut pas un autre saclic. Donc là, on crée un climat dans lequel ben, on risque d'avoir un problème qui est aussi grave qu'avoir des dépassements de coûts et des fiascos informatiques,
ouais,
c'est-à-dire pas faire de transformation.
Pas le faire, exactement.
Donc, allez, là, la gang. Là.
Est-ce qu'avec la campagne électorale qui s'en vient, tu vois là une belle opportunité justement pour les partis politiques de se positionner à savoir comment je vais faire la transformation numérique? Puis là, ben moi, si j'étais wise, je prendrais le rapport Galant puis je te dirais c'est de même affaire.
Bien, il me semble. Donc, moi, j'espère qu'il n'y aura pas trop de débats. Moi, je veux que ça avance. T'sais, je pense qu'on les connaît, les solutions, il faut les mettre en place. Malheureusement, à mes yeux, une campagne électorale, c'est le moment de faire de la politique très partisane. Et dans ces dossiers-là, comme dans certains autres dossiers qui sont très compliqués, des fois, on y va avec les solutions qui ont donc l'air faciles. Ah, moi, je le sais, c'est quoi la solution. Puis là, les autres sont pas bons, puis tout ça. Honnêtement, on les a, les solutions. Le rapport Galant, il est très bon. Ils ont fait un travail rigoureux, mettons-le en application. Et il faudrait que le gouvernement communique aussi pour dire, écoutez, voici la liste des projets qui sont en cours. Ceux-là, on va faire tout notre possible pour qu'il y ait le moins de problèmes possible, mais il va en avoir des problèmes.
C'est
comme
sûr.
On voit avec DSM.
Exactement, c'est sûr. Je partage ton opinion à 100%. Hey, Anto, tu m'as fait découvrir une nouvelle vedette TikTok. On l'écoute?
Paris Saint-Germain ou Marseille?
Moi, je suis supporter de l'OM. Et ce soir, c'est PSG qui joue, donc je suis pour le PSG.
C'est Macron.
Cette principauté a vocation à rayonner en Europe en gardant sa singularité. Cette petite enclave pyrénéenne est européenne. Qu'elle la saisisse pleinement en respectant ses singularités. Chaque jour, soyez convaincus que vous êtes dans mes pensées et dans mon cœur. Andorre fait bien dans ce monde si compliqué.
C'est un film. Un film des années 80,
ben oui.
Avec la petite hanche mouvante.
Et hey, puis là, il y en a plein de mèmes. Il y en a même une où il chante la bohème, puis etc.
Oui, ben, d'ailleurs, Emmanuel Macron fait sensation en ce moment pour avoir dit à des gens de se taire dans une salle. Là, c'est genre, je sais pas c'est quoi l'événement exactement, mais il dit aux gens de fermez-vous, ben donc quittez la salle. Ça aussi, c'est la tendance.
Il y en a plein avec des jeunes aussi de soccer. Ronaldo ou Messi? Puis là, il répond, ah, moi, c'est Mbappé.
Oui, son TikTok est spécial. Mais je t'ai envoyé sur son TikTok aussi parce qu'il y a quelques vidéos très militaires. Les as-tu vues?
Oui, ben oui, je les ai vues.
Il est dans des hélicoptères.
Oui, puis là, on pratique aussi des simulations des opérations. De gens qui viendront envahir la France.
Oui.
Puis là, c'est lui qui a le gros téléphone vert et qui
oui.
dit à l'attaque.
Mais ils sont vraiment retournés dans une campagne. Là.
Ah,
on,
oui.
on a eu recours aussi à ramener les hommes au service militaire
oui,
de quelconque
vraiment.
Manière. Mais ça fait des mois. Là,
le militaire, c'est hip. En ce moment.
Ah, vraiment?
OK. Puis Macron, il faut le dire aux gens, en France, tu ne peux pas te présenter une troisième fois à la présidence. Donc, lui, il est sur la fin un petit peu de ses quinquennats.
Ouais, puis tu sais, honnêtement, quand tu regardes ses TikTok, tu sais, c'est la rockstar
ben,
qui se promène, il y a son public, prend des photos, prend les enfants dans ses bras.
Mais il faut le dire, ça n'a pas été facile dans les dernières années pour Emmanuel Macron. Okay? Donc, il y avait une baisse de popularité, il y avait beaucoup de problèmes dans leur Assemblée nationale, il n'arrivait pas à faire élire beaucoup de gens qui sont pro de ses politiques à lui. Mais le militaire, c'est aussi une occasion de monter sa popularité en ce moment parce que les gens ont plus d'ouverture à ça. On est dans un drôle de contexte mondial,
ben
évidemment.
Ouais. On est rendu à 29 milliards en passant de dépensés par le Pentagone pour la guerre en Irak. Ça va bien. Ça
4 milliards de plus qu'il y a deux semaines.
Oui, 29 milliards sans l'approbation du
Puis
Congrès.
Puis
on
a vu le secrétaire d'État qui nous expliquait que l'objectif, c'est de revenir à la situation pré-guerre.
Exactement. Donc,
on a vraiment l'impression que ça servait à quelque chose.
On va l'avoir brûlé dans le feu, ce 29 milliards-là du côté des États-Unis.
C'est super.
Ça explique la descente aux enfers de Donald Trump. Mais là, c'est
lui, ça ne le sert pas beaucoup.
C'est ça.
Mais mettons, Mark Carney, Emmanuel Macron, Christine Fréchette.
Ben là, c'est ça. Christine Fréchette s'en va en France. Là, premièrement, je pense qu'il va falloir qu'elle s'inspire d'Emmanuel Macron pour une coupe de TikTok pour essayer de pogner.
Moi, je veux qu'elle arrive, tu sais, debout sur un sous-marin. Là,
oui, mais là, elle va là pour conclure des deals militaires, des deals d'armement,
de défense.
Défense.
Puis, bon, OK. Donc, Christine Fréchette, qui est première ministre maintenant depuis quelques semaines, elle a eu l'occasion pendant la prorogation, pendant que l'Assemblée nationale était fermée, d'aller faire une première mission à Washington. Puis là, on se disait, bon, tu sais, le Québec, ça va à Washington, c'est-tu nécessaire, tout ça. Mais ça a vraiment bien été. Puis le délégué du Québec à Washington, Benjamin Belair, avait réussi à y avoir des rencontres de haut niveau. Là, tu sais, et ça avait été qualifié de succès, cette mission-là.
Vraiment, M. Greer, qu'elle avait vu à la fin de sa journée?
Absolument. Donc ça avait été bien accueilli. Puis ça fait des belles images. Puis il faut savoir, là, chers amis, que quand tu es chef de parti, quand tu es premier ministre, c'est sûr que d'aller faire des missions à l'étranger, c'est plus glam que de se faire rosser de questions à période de questions par les oppositions.
Ben oui.
Tu te fais attaquer par trois groupes d'opposition.
Ben, c'est
les
la
médias
stratégie.
Sont pas fins.
C'est la stratégie Mark Carney, jamais à la Chambre des communes.
Bon, c'est ça. Puis là, je dis pas que Mme Fréchette est passée à l'Assemblée nationale, mais c'est sûr que de partir en mission en France, ça fait des belles images. Et la priorité de la CAQ en ce moment, ben, je vous dis pas qu'ils ont pas des belles intentions au niveau des politiques publiques, mais c'est sûr que c'est de bouger dans les sondages.
Ben oui.
Donc, d'après moi, on pense que ça va peut-être contribuer à faire bouger l'aiguille. La France, c'est quand même pas une intéressante commission parce que, c'est sûr, il y en a eu beaucoup d'émissions en France dans les dernières années. C'est un partenaire qui est très classique, là, l'amitié franco-québécoise. Là, pis... Mais on était moins sur les aspects commerciaux. La France, c'est... on était dans la diplomatie plus classique. Proximité culturelle, puis on parlait de découvrabilité des contenus francophones, des choses comme ça. Là, on vient rajouter l'aspect défense, l'aspect commercial. La France est le 5e partenaire commercial du Québec, donc c'est quand même pas inintéressant.
Ben non.
On a un délégué là-bas maintenant qui est économique, qui est un ancien de la Caisse de dépôt, M. Rousseau. Et là, il y a toute la question de la défense. Beaucoup d'argent qui va évidemment être investi dans les prochaines années. Puis on sait que M. Carney, au niveau fédéral aussi, veut vraiment transformer l'économie, miser sur la défense. Puis le Québec veut tirer son épingle du jeu. C'est sûr, au Québec, on ne fabrique pas d'armes. Là. On n'est pas très, fort dans ce milieu-là. Par contre, tout ce qui est aérospatial, infrastructure, construction de bateaux notamment, il y a quand même des pistes intéressantes. Est-ce qu'il va y avoir des retombées directes de cette mission-là la semaine prochaine, là, à part pendant la fin de semaine des Patriotes? C'est ça qui est toujours un peu plus dur, c'est de montrer des retombées tout de suite.
Immédiate, c'est ça, c'est des choses qui se font à long terme.
Ben oui,
exactement. C'est clair que ça va être comme ça, mais bref, ça va être quand même une mission à suivre avec énormément d'attention. Jean Talon maintenant.
Mon comté!
Ton comté, comté ici dans la région de Québec. Comté que moi, quand j'étais jeune, mon père me disait toujours, Jean Talon, là, c'est les libéraux qui ont
ça. C'est rouge, ça.
C'est
tout
rouge.
Temps, tout temps
ça
rouge.
Avait toujours été rouge. Jusqu'à temps que la CAQ arrive. Mais là, je regarde sur Québec 125, après la ratelée historique que le PQ a donné à tout le monde dans l'élection partielle de 2023, la projection. 36 % pour le PLQ, 35 % pour le PQ. Fait qu'on s'entend, sont à égalité parce que dans des marges d'erreur comme ça sur Québec 125, c'est souvent du 5-6 % là, en raison là, du petit échantillonnage.
Exact.
On amène Julie White, une ancienne du Parti libéral, une ancienne staffer, je vais prendre le terme anglophone, du Parti libéral, qui s'est fait connaître dans la dernière année à la tête de manufacturiers exportateurs du Québec, que vous avez entendu quand même plusieurs fois sur nos ondes. Elle collaborait ici à l'émission On en jase. Ça va être un méchant combat entre les libéraux et le PQ.
Ça va être une course intéressante à suivre pour la prochaine campagne électorale. D'abord, je dois déclarer mon conflit d'intérêts avec Julie. Je la connais, Julie. J'ai travaillé avec elle. J'ai travaillé avec elle dans le privé, mais j'ai travaillé contre elle sur la colline parlementaire.
Vous êtes déjà ostiné?
Ben, en fait, on s'est jamais ostiné comme tel, mais bon, on n'a pas les mêmes valeurs politiques, elle et moi. Mais c'est une personne à qui je reconnais vraiment des belles compétences. C'est pas une personne hyper partisane, mais c'est une vraie loyale. Par exemple.
Ouais.
Libéral jusqu'à la mort. Là. Ça, vous pouvez en être sûr. Elle vient d'une famille qui est libérale. Elle a été directrice de cabinet de Gaétan Barrette, notamment. Elle connaît très bien les dossiers de santé.
Fait une main économique.
Bien là, oui. Puis ça pas... Disons que la dernière fois qu'elle s'est présentée, c'était en 2022. C'était ce qu'on appelle... Puis elle n'aimera pas ça que je dise ça, mais... candidate poteau. C'est-à-dire que il faut que tu mettes des candidats, puis là, tu prends une couple de staff pour remplir.
Oui.
Ça avait surpris à l'époque, en 2022, puisque Jean Talon, quand même, ça a été longtemps un château fort libéral.
Mm-hmm.
Et là, on mettait un employé politique comme candidat.
T'imagines comment Dominique Anglade a eu de la misère?
Bien, ça, c'est ça. Puis c'est comme ça qu'on l'avait interprété à l'époque, en disant « ça va pas très bien au Parti libéral ». Là, 4 ans plus tard, honnêtement, elle a enrichi son CV et elle revient par la grande porte. Il n'y a personne qui va dire maintenant que c'est une candidate poteau. Est-ce que ça veut dire que c'est gagné d'avance? Non. Le PQ est encore premier dans les sondages à l'échelle de la région.
Pascal Paradis travaille fort.
Travaille très fort. Fait que ça va être, tu sais, il y a des plus et des moins des deux côtés, mais c'est sûr que ça a été tellement longtemps un comté Châteaufort libéral. C'est un comté qui est âgé aussi, Jean Talon. C'est un comté qui vote. Donc, on a des taux de participation qui sont généralement plus élevés que la moyenne nationale. Beaucoup de petites familles. Il y a plusieurs secteurs différents dans Jean Talon. Il y a des secteurs plus aisés qui, des fois, ont tendance à voter plus pour... en fait, sont un petit peu... Je ne sais pas comment le dire, mais pour la stabilité, partie de l'économie, les référendums, on n'aime pas trop ça. Le secteur de Sillery, là, notamment. Une augmentation de l'immigration aussi. Dans Jean Talon, surtout dans le secteur de Sainte-Foy. On le voit, là, la transformation de la circonscription. Comme à Québec, on voit plus aussi de diversité depuis plusieurs années.
Mais Sainte-Foy, c'est vrai que c'est clairement identifiable.
Ah, oui, oui, oui.
Puis, j'avais posé les questions aux auditeurs il y a peut-être 2-3 mois. Ils nous avaient répondu immense immigration depuis, mettons, 2-3 ans. Là.
Absolument. Dans Jean Talon, c'est palpable. Juste dans les écoles, vous allez voir, tu sais, par exemple, l'école de mon fils, là, c'est rendu du 50-50. Là, quand, si je peux m'exprimer ainsi, Québécois de souche blanc versus les gens qui sont issus de la diversité culturelle. Donc, on le voit aussi que c'est une circonscription qui est en transformation. Donc, il y a des plus et des moins des deux côtés, du côté du PQ et du PLQ. Puis, il faut toujours se rappeler que dans ces courses-là aussi, la dynamique avec les autres partis qui n'ont peut-être pas de chance de gagner, mais si QS en fait plus, en fait moins, si la CAQ réussit à aller rechercher quelques points, ça peut faire la différence d'un côté ou de l'autre. Dépendamment où on va aller gruger les votes. Donc, c'est très intéressant. Et je trouve que le recrutement du Parti libéral et du PQ, ça va très, très bien. QS annonce beaucoup de candidats aussi.
Oui.
Mais c'est vraiment la CAQ qui accuse un retard en recrutement. En fait, ils n'ont pas commencé.
Bien là, présentement, là, je m'excuse, mais il va y avoir 20-25 comtés, ça va être des gens de l'aile parlementaire, là, ça va être du staff
politique.
Comme
quoi la roue politique tourne toujours, mon cher Jeff, parce qu'en 2022, c'était les libéraux qui envoyaient du staff dans leur comté.
Bien, c'est parce que je fais juste regarder les deux dernières élections partielles, Nartabaska et à Chicoutimi. C'était Chicoutimi, Saguenay...
Dans Terrebonne et Arthabasca, on a eu deux candidats du côté de la CAQ qui étaient issus soit des instances partisanes ou d'un cabinet politique.
Le petit humoriste là, Kevin Tremblay du Gang Show, là, c'était au Saguenay, ça aussi, c'était dans Chicoutimi.
Je l'avais oublié.
Fait que ça fait trois. Moi, je ne l'oublie jamais parce que ça a été ma référence pour le Gang Show.
C'est vrai. Jamais tu n'oublieras. Depuis que tu es humoriste.
J'ai fait la salle Barousseau.
Je m'excuse auprès de notre ami Francis, candidat caquiste dans Chicoutimi. Je l'avais malheureusement oublié.
Mais
tu vois-tu comment la roue tourne?
Ben oui, la roue tourne.
2022, les libéraux sont dans leur traversée du désert, de la difficulté à remplir leur comté. La CAQ était dans la stratosphère des sondages. Ils sont allés chercher une super majorité. Les cycles politiques, c'est comme ça. On pense qu'un parti est mort, il revient. À un moment donné, t'es populaire. Puis à un moment donné, les gens sont plus capables de te voir.
Bien, c'est pour ça qu'il faut pas enterrer la CAQ trop rapidement. Parce que ça va vite en politique. On dit toujours 6 mois en politique, c'est quoi? C'est quasiment un mandat?
Une éternité.
Mais eux, ils disent qu'ils ont des candidats exceptionnels dans leur manche. Quoi de ça?
Bien, honnêtement, depuis l'arrivée de Mme Fréchette et son départ que plusieurs qualifient de sans faute, moi, je pense que ça augmente leur chance d'aller chercher du recrutement. Mais tu sais, de là à aller mettre ta face sur une pancarte avec le logo de la CAQ, va falloir qu'elle fasse, qu'elle continue son sans faute. C'est pas facile de convaincre des gens d'aller se présenter. C'est encore moins facile de convaincre des gens d'aller se présenter dans des comtés qui sont durs à aller chercher.
Ben, tu sais, je regardais Jean Talon, son 5e présentement selon Québec 125. D'après moi, il n'y aura pas une candidature à la Joël Boutin qui va se présenter.
Ouais, ou même celle qui avait présenté lors de la partielle, Yannick Chouari, qui était une bonne candidature également.
Super bonne candidature, qui en fait beaucoup pour les femmes dans le domaine communautaire. Franchement, je salue son engagement. Antonine Iaccarini, toujours un bonheur. On se voit demain.
On se parle demain.
Good. Caucus avec Antonine Iaccarini de midi à 12h30 sur les ondes de Boulevard 101.
On en jase.